Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Au cinéma actuellement, on peut voir une troisième version du film culte de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, soit 40 ans après sa sortie. Le film modifié et restauré pour l'occasion a pour titre Apocalypse Now, The Final Cut. Mais que nous dit cette nouvelle version, ou cette version définitive, pour reprendre Coppola? Mon invité ce matin est le journaliste et écrivain Samuel Blumenfeld, que les lecteurs assidus du M, le magazine du Monde, connaissent bien. Spécialiste du cinéma américain, il est allé à la rencontre des plus grands acteurs d'Hollywood. Samuel Blumenfeld, qui vient justement de publier un livre consacré à ce monstre de cinéma, qui est Marlon Brando. Titre de l'ouvrage, Les derniers jours de Marlon Brando, c'est édité par Stock.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
40 ans déjà, Apocalypse Now de Francis Ford Coppola est sorti en 1979, accueilli par une palme d'or à Cannes et un succès au box-office. Et qui est devenu tout de suite un film culte, hein, je veux dire, dès sa sortie. Et pourtant, c'était loin d'être gagné d'avance. Le tournage interminable de ce film, son coût astronomique avec un dépassement de budget de 18 millions de dollars, les catastrophes naturelles qui se sont invitées avec ce typhon qui a dévasté les décors, et puis surtout les états d'âme de Marlon Brando avaient nourri la chronique. Alors, c'était pas gagné d'avance, mais même l'histoire du film était très risquée, hein, puisque c'était un pari pour le moins audacieux que de transposer au cœur des de Joseph Conrad dans le bourbier de la guerre du Vietnam. Alors, devenu un classique parmi les grands classiques du cinéma américain, tout le monde connaît la trame de ce film hallucinant. Dans Apocalypse Now, le capitaine Villard, interprété par Martin Sheen, est missionné par la CIA pour mettre hors d'état de nuire le colonel Kurtz, joué donc par Marlon Brando, colonel devenu incontrôlable, pour ne pas dire fou, dans un coin de la jungle cambodgienne. Alors, après avoir proposé une deuxième version de son film en 2001, une version plus longue, une heure de plus que la version originale, voici que Francis Ford Coppola nous propose une troisième version cette année. Le film sort un peu partout en France aujourd'hui. Alors, au niveau de la longueur du film, c'est à mi-chemin entre les deux premières versions. Le film fait 3h02, hein, le film Final Cut. Bonjour Samuel Blumenfeld.
Bonjour.
Alors, vous qui avez vu les trois versions, est-ce que vous comprenez ce qui a pu motiver Francis Ford Coppola, qui n'arrête pas de remonter son film?
Oui. Et je dirais même que, ça se trouve, d'ailleurs, il continuera de le remonter, en tout cas, au moins dans sa tête. Et on peut pas exclure, d'ailleurs, qu'il y ait un jour une autre version. Pourquoi cette pléthore de versions? Il faut bien comprendre que quand on dit que c'est la troisième version de l'Apocalypse Now, en fait, non. Ça doit être peut-être la cinquième, la sixième ou la septième. Parce que déjà, la version qui avait été présentée au Festival de Cannes en 79 n'était pas la même que celle qui était sortie en salle quelques mois plus tard. Et avant même de présenter son film à Cannes, donc toujours en 79, Coppola avait fait plusieurs previews de son film à San Francisco, chez lui donc, et à Los Angeles, et c'était déjà une autre version. Donc, en fait, le film s'appelle fort heureusement Apocalypse Now, parce qu'apocalypse, c'est vraiment le mot-clé qui permet de comprendre et le cœur du film et ça et son fonctionnement. C'est vraiment apocalypse à tous les étages. Donc Coppola n'a jamais vraiment trouvé la version définitive de son film. C'est un work in progress. Alors, souvent on se dit c'est un work in progress, c'est un film donc qui n'a pas vraiment trouvé son centre de gravité ou sa forme définitive. Donc c'est un problème. Non, c'est pas un problème, c'est un work in progress génial. Ça arrive.
Mais en 40 ans, parce qu'entre 79 et aujourd'hui, on peut dire que Francis Ford Coppola a évolué, qu'il voit pas peut-être les choses de la même manière. Quand je dis évoluer, on évolue dans la vie, il peut même changer d'opinion politique s'il veut, comme tout le monde. Est-ce que c'est ça qui a motivé aussi son envie de remonter son film différemment, d'introduire des scènes, puis de les enlever, Samuel Blumenfeld?
C'est un problème de rythme, hein, et un problème et aussi une question de relation passionnel à ces images. Le problème de rythme, c'est que nous avions dans la version d'origine de 79, nous avions un film relativement court, je dis relativement en regard de l'ampleur de l'histoire. Quand ensuite sort Apocalypse Now Redux, on a un film qui est beaucoup plus long, qui est presque augmenté d'une heure.
Ouais,
augmenté d'une heure. Quels sont les ajouts principaux du film?
Et que disent ces ajouts,
oui,
justement,
oui,
de Coppola, voilà, de l'époque, de comment il a évolué?
Absolument. Bon, ce que disent ces ajouts, c'est ces ajouts sont possibles parce qu'en fait, le film a eu sa carrière commerciale, a finalement échappé au désastre et donc a gagné de l'argent. Sachant que, bon, vous mentionniez tout à l'heure que c'était un film qui avait été largement hors budget, c'était le cas, mais il faut bien comprendre que ces dépassements de budget étaient assumés par Coppola, qui avait gagé tous ses biens. Donc il était véritablement en risque. D'ailleurs, bon, il était tellement en risque que pour son film suivant, Coup de cœur, Coppola a également mis une partie de son argent et a tout perdu, et a mis près de 15 ans à se remettre d'équerre. Ce qui se passait sur les différents ajouts, différentes versions d'Apocalypse Now, et ce qu'on a pu redécouvrir donc au moment d'Apocalypse Now Redux, ce sont principalement deux choses qui sont pas anodines. La première, c'était l'ajout d'une séquence complète. Enfin, c'est plus qu'une séquence d'ailleurs. C'est un morceau de film. Et qui est le passage dans la plantation française. Où, donc, le capitaine Willard et puis les autres soldats, donc, dans leur traversée des ténèbres, arrivent dans une plantation française. Donc, une plantation qui remonte, donc, à l'Indochine. Et il y a une famille française, donc, qui est restée là. Et on se demande bien pourquoi. Ce qui est intéressant, c'est que cette famille française, les comédiens sont Aurore Clément qui est l'époux de Dean Tavularis, le décorateur de Coppola, et donc Christian Marquand qui est le meilleur ami de Brando. Enfin, il y avait une relation fusionnelle entre les deux, pour ne pas dire plus. Et donc, ce qu'était l'intention de cette séquence dans la plantation de Français, c'était de signifier que, avant que les Américains arrivent au Vietnam, il y avait déjà eu une autre force étrangère, coloniale, qui était les Français. Et donc, découvrir cela, c'était véritablement se demander, mais pourquoi après le passage désastreux des Français en Indochine et la manière dont catastrophique dont ça s'est terminé, pourquoi est-ce qu'un autre pays occidental y a mis les pieds pour un résultat tout aussi négatif? C'était ça que voulait mettre en valeur Coppola, et sur un plan théorique, c'était fort bien vu, fort intelligent, et la séquence est d'ailleurs absolument magnifique. Elle est d'ailleurs sur un plan photographique, sur un plan esthétique, elle est très inspirée de Barry Lyndon. On voit bien que Coppola a été très marqué par la découverte du film de Kubrick, qui était assez peu aimé à l'époque aux États-Unis. Simplement, cette séquence, on peut véritablement argumenter qu'elle ralentit le rythme du film. Elle est un film à l'intérieur du film. Donc, film magnifique à l'intérieur d'un film grandiose, mais dans l'économie du récit, est problématique et donc a disparu de la version Final Cut qui sort aujourd'hui dans les salles.
Et pour cette nouvelle version, hein, à mi-chemin entre la version d'origine et la version longue, puisqu'elle ne fait que 3 heures, cette version intitulée Final Cut.
Donc celle qui sort dans les salles, en France aujourd'hui. Et il y a une autre suppression qui est très importante, qui est sur laquelle Coppola avait beaucoup insisté dans la version précédente, ce sont les scènes avec Brando. Il y a quelques passages avec Brando qui ont été supprimés. La raison pour laquelle Coppola avait ressorti tous ces passages avec Brando pour Apocalypse Now Redux, c'est que tout simplement, bon, et bien à l'époque, d'abord, Brando était encore vivant. Pour le coup, il s'agissait des derniers jours de Brando, même si ce n'était pas annoncé comme ça.
Ouais,
surtout, on prenait conscience, et Coppola le premier, que le footage de Brando sur Apocalypse Now, c'est à bien des égards son dernier film. C'est la dernière fois que Brando occupe un véritable rôle dans un chef-d'œuvre. Mmh. C'est fini. Après cela, on ferme la boutique. Et c'est comme si le film aussi avait pris en compte cela de manière inconsciente, de manière heureuse, mais avait pris en compte le fait que Brando, qui détestait à ce point son statut de star, son métier d'acteur, allait mettre en point d'honneur à disparaître après ce film qui est aussi un film sur une apparition, puisque Brando véritablement est une ligne de mire. C'est une figure totémique que le spectateur attend et va finalement découvrir, sachant que cette figure-là, en fait, est évanescente.
On écoute un bout de la bande-annonce du film, donc de cette troisième version d'Apocalypse Now, qui sort donc aujourd'hui dans toutes les salles de France, Final Cut. Et dans cette bande-annonce, cette bande-annonce commence carrément par Francis Ford Coppola expliquant les raisons de cette version.
Hello, I'm Francis Ford Coppola, and I present for you Apocalypse Now, Final Cut. I'm enthusiastic about the version because I realize, well, I want to make a version that I like. It's longer than the 1979 version, but shorter than Apocalypse Redux, and it's the one I recommend to you as my favorite. I invite you to enjoy this movie, Apocalypse Now, Final Cut. Thank you.
On parle d'Apocalypse Now dans le réveil culturel, la dernière version, celle qui sort aujourd'hui en compagnie de Samuel Blumenfeld, qui publie chez Stock les derniers jours de Marlon Brando. Est-ce qu'on peut dire, Samuel Blumenfeld, que en 79, la guerre du Vietnam est très présente dans l'esprit de Francis Ford Coppola? C'est la guerre qui a marqué son époque, sa jeunesse, et que là, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la guerre du Vietnam, il propose, avec d'abord la version de 2001 et surtout cette version, une œuvre un peu plus globale sur la guerre, sur les ténèbres. Qu'est-ce que ça représente pour vous, d'ailleurs? Comment vous lisez aujourd'hui, Samuel Blumenfeld, Apocalypse Now?
Alors, il y a un volet politique que vous soulignez, mais je dirais, alors il est important, et d'ailleurs il est particulièrement développé dans les scènes avec Brando, qui sont des scènes très politiques où le colonel Kurtz a un discours véritablement très argumenté contre la guerre du Vietnam. Je dirais néanmoins que Coppola ne m'apparaît pas comme un cinéaste très politique, au sens où ce n'a jamais été un cinéaste plus préoccupé que cela par la politique. C'est pas un reproche, c'est une constatation. Je pense que son impulsion sur Apocalypse Now est ce qui fait que le film nous fascine autant 40 ans plus tard et continuera à nous fasciner dans 40 ans. Il y a deux choses. Il y a d'abord un aspect très concurrentiel chez Coppola, en fait, et très compétitif chez tous les cinéastes américains. C'est que lorsque Coppola réalise Apocalypse Now, il est au sommet de ses possibilités, c'est le réalisateur qui a réalisé Les Deux Parrains, Conversation Secrète, c'est l'homme qui domine le cinéma américain dans les années 70 et presque, on va dire, le cinéma mondial à cette époque. Et donc, pour lui réaliser Apocalypse Now, donc adapter Cœur des Ténèbres de Joseph Conrad, c'est mettre en œuvre, enfin réaliser le film que Orson Welles n'a jamais pu réaliser. Parce que Cœur des Ténèbres devait être le premier film d'Orson Welles à Hollywood, juste avant Citizen Kane. Et pour différentes raisons, Orson Welles n'était pas arrivé à le mener à bien, alors qu'il était à un moment de sa carrière, au tout début de sa carrière, où il avait carte blanche pour tout. Donc pour Coppola, faire Apocalypse Now, c'était se mesurer au plus grand réalisateur américain de l'histoire, et signifier qu'il l'avait fait mieux que lui. Le deuxième aspect qui est très important, qu'il faut bien garder en tête, c'est que lorsque Coppola réalise Apocalypse Now, donc un tournage sur plus d'un an dans la jungle aux Philippines, avec un nombre de catastrophes inouïes, des typhons, l'acteur principal Martin Sheen qui est victime d'une crise cardiaque, un film qui...
Sans parler des caprices de Marlon Brando, on y reviendra.
Voilà, sans parler de la gestion du cas Brando, qui a toujours été, une gestion, mais enfin la gestion du cas Brando dans la jungle, ça demande beaucoup de doigté. Et l'idée de Coppola se conduit en aventurier. Nous sommes à une époque du cinéma, les années 70, une époque où le metteur en scène de cinéma est tout puissant, et donc se conduit en aventurier. Et donc l'idée sous-jacente d'Apocalypse Now, c'est d'aller là où d'autres cinéastes ne sont jamais allés, pour rapporter des images qui n'ont jamais été vues. Or, aujourd'hui, à l'ère du numérique, à une époque où tout est réalisé par ordinateur, Eh bien, cette idée-là du cinéma, qui en fait remonte à ses débuts, sont les Frères Lumière. C'est les Frères Lumière, c'est on envoie des émissaires dans le monde entier pour ramener des images du monde au monde. Eh bien, cette idée du cinéma lumière, cette idée également d'un cinéaste qui est un aventurier, eh bien, elle meurt avec Apocalypse Now. Et c'est ça qui nous fascine. Parce que ce film-là, nous ne le reverrons plus jamais.
Samuel Bellwenfeld, je le disais, vous venez de publier chez Stock un livre passionnant, Les derniers jours de Marlon Brando. Je dis bien passionnant, et c'est pas une formule, mais je me garderai d'ailleurs de dire pourquoi, sinon de conseiller au lecteur de le lire jusqu'au bout, et même au-delà, jusqu'à la fin des remerciements de l'auteur, à la fin du livre. Voilà un livre très fourni, en tout cas en information, un portrait de l'immense acteur, alors qu'on ne le reconnaît déjà plus, le monstre Brando, en pachyderme mourant, Marlon Brando en vieille drag queen. En fait, il est très peu question, alors que vous citez tous ces films, hein, Samuel Blumenfeld, il est très peu question d'Apocalypse Now dans votre livre. Alors que, franchement, le Brando vieillissant dans sa maison de Mulholland Drive et une maison ouverte aux entrevents, hein, ressemble un peu à la fin du colonel Kurt, devenu incontrôlable dans un coin de la jungle cambodgienne.
Alors, c'est assez juste. Il y a effectivement l'idée d'un personnage auréolé d'une dimension mythique, conscient d'ailleurs de cette dimension, et qui termine seul. Sauf que la différence, c'est que dans Apocalypse Now, le colonel Kurtz est sur son atoll. D'ailleurs, en fait, bon, un atoll, c'est quelque chose qui disait vraiment, ça disait quelque chose à Brando, puisque Brando avait son atoll dans le Pacifique, à Tahiti. Mais dans Apocalypse Now, Brando est à la tête d'une tribu. C'est un chef de bande. Brando, dans ses derniers jours, dans ses dernières années, c'est quelqu'un qui est véritablement seul dans sa villa de Mulholland Drive. Mm-hmm. En revanche, ce qui est assez juste, et là où il y a un syndrome américain que Conrad anticipe dans Cœur de ténèbres, c'est l'idée que les États-Unis sont un pays jeune. Donc, c'est un pays où il n'y a jamais eu droit. Ça a toujours été une démocratie, donc il n'y a jamais eu droit. Donc, quand il n'y a pas eu droit, les rois en Europe, c'est ce qui se rapproche le plus des stars que nous connaissons. Prenez Louis II de Bavière, eh bien, il termine seul dans ses différents châteaux. Eh bien, les États-Unis, le pays le plus puissant du monde, et donc les individus les plus puissants des États-Unis, terminent souvent seuls dans leur Xanadu. Et donc, c'est ce qui est arrivé à Brando.
They call you Lady Luck, but there is room for doubt. At times you have a very unladylike way of running out. You're on this date with me. The pickings have been lush, and yet before this evening is over, you might give me the brush. You might forget your manners, you might refuse to stay, and so the best that I can do is pray. Luck be a lady tonight. Luck be a lady tonight. Lucky if you've ever been a lady to begin with. Luck be a lady tonight.
C'était un grand comédien, un grand acteur, mais c'était pas un grand chanteur, on peut le dire, Samuel Blumenfeld, Marlon Brando.
Non.
Là, on l'écoute, bien sûr, dans l'extrait du film de Joseph Malkiewicz en 1955, Blanche Colombe et Vilain Messiaen, version française.
Ce qui n'est pas son meilleur film, ni celui de Malkiewicz. Ouais. Ça veut dire, c'est un film assez faible.
Ceci dit, dans votre livre, Les derniers jours de Marlon Brando, vous expliquez à quel point il choisissait ses films uniquement parce qu'il avait des problèmes d'argent.
Ah, c'est la carrière de Brando à partir des années 60, je dirais presque après Sur les quais de Kazan, qui est aussi la séparation avec son metteur en scène fétiche de référence, la carrière de Brando ensuite est strictement dictée par ses besoins financiers. C'est quelqu'un qui ne gère pas sa vie, qui ne gère pas son existence, qui ne gère pas ses finances, et qui donc, en fait, faut bien comprendre que chaque rôle de Brando, à partir du début des années 60, ça fait beaucoup de films ensuite, hein, vraiment. eh bien, il les fait parce que ça correspond, il prend scénario parce que ça correspond à un moment où il a besoin d'argent.
Et pourquoi Apocalypse Now? C'est parce que ça s'était bien passé avec Francis Ford Coppola, qui lui avait donné quand même la chance de revenir au cinéma avec Le Parrain.
Alors, absolument, il fait Apocalypse Now, il accepte de le faire, hein, parce que Coppola l'a sorti de l'oubli pour Le Parrain.
Ouais.
Au moment du Parrain, personne ne voulait de Brando, c'est Coppola qui s'est battu pour imposer Brando. Il a même d'ailleurs, le studio Paramount avait demandé à ce que Brando tourne un essai du film, ce que Brando ne faisait jamais, et en fait Coppola avait fait croire à Brando en fait que l'essai qu'il tournait n'était pas un essai. Donc c'est dire à peu près, et donc il avait véritablement, sinon en fait Brando aurait disparu à la fin des années 60, purement et simplement sans Coppola. Et donc il avait accepté de tourner Apocalypse Now, bon, c'était une faveur offerte à Coppola. Sauf que bon, c'est environ 15 jours de tournage pour Brando, comme dans Apocalypse Now, donc il a beaucoup moins souffert que les autres comédiens, c'est-à-dire que Brando n'a pas du tout enduré l'odyssée infernale de toute l'équipe. Donc il n'est pas devenu fou, ou du moins s'il est devenu fou, c'est pas en raison du film de Coppola. Donc c'est 15 jours, dans cet atoll donc où se termine Apocalypse Now, 15 jours où il arrive non préparé, il ne connaissait pas son rôle, il a pris le temps de travailler avec Coppola, et bon, pour $1 million, donc une somme astronomique, bon bah il accepte de tourner le film.
Samuel Blumenfeld, les derniers jours de Marlon Brando, un journaliste français qui va à la rencontre de la bête, on peut le dire, hein, oui. Puisqu'on l'appelait oui. comme ça, Jacques oui. Nicholson, l'appelait comme ça son voisin Jacques Nicholson. Ça tombe bien, Marlon Brando parle français. On va l'écouter justement dans une interview accordée à la télévision française en 1965. Il était, je crois, le seul à pouvoir dire à cette époque-là que les interviews de promo, c'est une corvée, qu'il le fait pour les studios et en gardant ce sourire.
Marlon Brando, pourquoi êtes-vous venu à Paris?
C'est parce que j'ai tapé le tambour pour Universal International Company.
Vous avez déjà un long passé derrière vous. N'êtes-vous pas fatigué de votre métier?
Oui, je crois. De temps en temps, tout le monde se fatigue de métier. Mais je suis dans une transition entre mon métier et... Je n'ai pas encore exactement trouvé le métier que je voudrais faire. Mais je crois que quand je finis mes films, je vais trouver quelque chose d'autre à faire.
Mais êtes-vous quand même satisfait de la tournure qu'a pris votre carrière?
On n'est jamais satisfait dans la vie, je crois. Toujours il y a les disappointements dans la vie. Et c'est difficile pour dire, oh oui, j'ai tellement satisfait. C'est impossible.
On a l'impression que le cinéma, c'était pas sa passion, Samuel Blumenfeld, en l'écoutant.
Absolument pas. C'est le drame et le paradoxe de l'individu Brando. C'est que il est investi d'un génie. C'est quelqu'un qui est génial dans son métier de comédien, qui est tout à fait conscient de l'être. Simplement, le drame, c'est qu'il n'aime pas ce métier pour lequel il est né. Et également, la spécificité de ce métier, c'est que vous dépendez des autres. Donc, aussi génial que vous soyez en tant que comédien, vous avez besoin d'un grand réalisateur. Or, Brando sait très bien qu'après 15 ans, mais il tombera plus difficilement sur de grands réalisateurs. Et ça le rend dingue.
Apocalypse Now de Final Cut, même, c'est-à-dire le montage de Coppola. Dernier montage de Coppola, c'est un film qu'on peut découvrir au cinéma. Vaut mieux le voir au cinéma avant la sortie en DVD du film de cette version le mois prochain. Et en librairie, ce portrait sensible écrit par Samuel Blumenfeld, Les derniers jours de Marlon Brando. Tout est vrai dans ce livre, ou presque. Ça a été un plaisir de vous recevoir, Samuel Blumenfeld.
Merci beaucoup.
Le Réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.